Radio Prague, les informations. Bonjour, la modernisation de l'armée tchèque ne fait pas partie des négociations sur le radar américain. Jan Švejnar pourrait présenter sa candidature au Sénat. Et enfin, en football, Petr Čech a fait son grand retour sur les terrains. La modernisation des équipements de l'armée tchèque ne fait pas partie des actuelles négociations tchéco-américaines portant sur l'installation d'une station radar américaine dans le massif de Brody, en République tchèque. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère tchèque de la Défense, qui a précisé que Prague n'avait jamais fait valoir de revendications matérielles dans le cadre de ces négociations. Il s'agit là d'un démenti suite à une information allant dans ce sens diffusée lundi par la télévision publique tchèque. L'économiste tchéco-américain Jan Švejnar pourrait présenter sa candidature au Sénat, chambre haute du Parlement tchèque. L'unique adversaire de Václav Klaus lors des dernières élections présidentielles a déclaré avoir reçu des propositions d'engagement en provenance de plusieurs partis politiques. Jan Švejnar affirme cependant que s'il se présente aux élections sénatoriales, il le fera en tant que candidat indépendant. Jan Švejnar, candidat des Verts et des sociaux-démocrates lors de l'élection présidentielle, a promis de prendre une décision définitive sur son engagement politique dans les jours à venir ou dans les quelques semaines au plus tard. La ministre chargée des minorités et des droits de l'homme, Jamila Sterlikova, a présenté des excuses publiques mardi suite à ses déclarations contre les Roms. Dans un entretien publié dans l'édition de samedi dernier d'un quotidien régional, la ministre a notamment affirmé que les parents sont responsables des échecs scolaires des enfants roms en les autorisant à ne pas aller à l'école et en les envoyant voler. Jamila Sterlikova a expliqué aux journalistes qu'elle regrettait que ces propos, dont elle affirme qu'ils visaient certaines familles concrètes dans une commune concrète, aient été généralisés à l'ensemble de la communauté rome du pays. Le président de la République, Václav Klaus, a gracié 12 personnes, a annoncé mardi le directeur du service de presse du président, Petr Hayek, qui a précisé que les décisions de Václav Klaus avaient été guidées dans la majorité des cas par des motifs humanitaires. Il s'agit des premières grâces accordées par le chef de l'État depuis sa réélection en février dernier. Depuis son entrée en fonction en 2003, Václav Klaus a accordé un peu moins de 200 grâces présidentielles. En football, blessé au visage et victime d'une coupure à la lèvre et au menton qui a nécessité une cinquantaine de points de suture, le gardien Petr Čech a fait son retour plutôt que prévu dans le but de Chelsea lundi contre Wigan dans le championnat d'Angleterre. Une bonne nouvelle donc pour la sélection tchèque à un peu plus de 50 jours du match d'ouverture de l'Euro 2008 contre la Suisse. Quant à Tomáš Rosický, capitaine de l'équipe nationale, les médecins se montrent de plus en plus sceptiques sur son rétablissement avant le championnat d'Europe. L'éventualité d'un retour de Pavel Nedvěd en retraite internationale depuis la Coupe du Monde 2006 est de plus en plus évoquée dans la presse pragoise. On termine avec un mot de météo. Le ciel reste très nuageux et pluvieux par endroits mercredi, jour de la fête des Iréna, selon le calendrier local. Les températures sont légèrement en baisse et varient entre 5 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Eh bien, merci à Guillaume pour les dernières informations et place maintenant au sujet d'actualité que nous allons développer. Tout d'abord, le record établi par la monnaie tchèque lundi matin, qui n'a pas duré longtemps, mais provoque des inquiétudes chez les exportateurs. Ensuite, Alena Gubertova vous présentera les objectifs du voyage du Premier ministre tchèque à Chypre. Les journées internationales du squat, c'était le week-end dernier, et Anne-Claire Veluire y était. Pour finir, ce sera Václav Richter, avec l'exposition d'un tableau d'un peintre de la Cour de France. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie. Lundi matin, les bourses européennes, surtout les places de Prague et de Londres, n'en croyaient pas leurs yeux. Le cours de la monnaie tchèque s'était fixé dans la nuit de dimanche à lundi à 23,71 couronnes l'euro. Cela ne préoccupe pourtant pas tellement les milieux financiers. Ce record du cours de la monnaie tchèque n'a pas duré longtemps, et peu de temps après l'ouverture des marchés des bourses européennes, le taux s'est fixé à un peu moins de 25 couronnes l'euro. Pourquoi la couronne a-t-elle fait ce bon passager ? Tout simplement parce que les spéculateurs en bourse asiatique ont acheté des couronnes pour des dizaines de millions dans la nuit quand les bourses européennes sont fermées. Le cours a grimpé, Mais avec l'ouverture de ces dernières, où les transactions se chiffrent en milliards par semaine, la couronne tchèque est bien vite revenue à la normale de ces derniers temps. Mardi, l'euro se changeait à 24 couronnes 94. La Česká národní banka, banque nationale tchèque, n'a pas réagi. Les milieux financiers ne sont pas préoccupés, comme l'explique Tomáš Vlk de la société Patria Finance.
Le cours de la couronne a vraiment grimpé face à l'euro. Plusieurs transactions ont eu lieu et le cours est monté jusqu'à 23 couronnes l'euro. Ce ne sont que des transactions isolées qui ont eu lieu sur un marché sans liquidité pratiquement. Le cours de la couronne devrait revenir au niveau d'environ 27 couronnes l'euro. Cela voudrait dire que ces quelques transactions étaient vraiment isolées.
Qui a spéculé sur la monnaie tchèque et était-ce une bonne affaire? Réponse par Martin Lobotka, analyticien de la Česká spořitelna, caisse d'épargne tchèque.
Il est difficile de dire qui a acheté ces couronnes. D'après les informations dont je dispose, il s'agirait d'un fonds australien. Il n'y avait pas de liquidité sur le marché, il était donc difficile de trouver un vendeur de couronnes. Je pense que ce fonds a dû acheter les couronnes tchèques très chères.
Les milieux financiers ne prennent pas ce bref record de la monnaie tchèque très au sérieux, mais les exportateurs s'en alarment quand même. En effet, le cours élevé de la couronne leur pose de gros problèmes, car il rend leurs produits plus chers sur les marchés étrangers. Selon les économistes, la tendance à la hausse devrait se poursuivre, car c'est l'économie qui se porte bien qui fait pression sur la couronne tchèque. D'un autre côté, les importateurs ou les touristes sont satisfaits. Ils achètent moins cher à l'étranger. La Grèce et Chypre sont les pays que le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, a visités ces derniers jours dans le cadre de sa tournée des capitales européennes. Celle-ci a pour ambition de présenter les priorités de la première présidence tchèque de l'Union européenne qui couvrira le premier semestre 2009. Alena Gabertova.
Il n'y a pas beaucoup de politiciens européens qui comprennent Chypre, les Chypriotes et leurs problèmes, mieux que moi, a déclaré Mirek Topolánek lors de sa visite à Chypre, en allusion au fait qu'il y avait étudié pendant 2 mois dans le passé. Outre les questions européennes, ce sont donc aussi celles concernant la situation dans les Balkans qu'il a évoquées avec ses interlocuteurs grecs et chypriotes. À l'issue d'une conversation qu'il a eue avec le président chypriote Dimitris Christofias, le chef de gouvernement tchèque a souligné la volonté de son pays de contribuer lors de sa présidence européenne aux efforts en vue de la réunification de Chypre. À cette fin, il compte organiser l'année prochaine à Prague une rencontre des représentants des deux communautés nationales de l'île.
Chypre constitue aujourd'hui un problème historique qu'il est nécessaire de résoudre, mais sans la volonté des deux parties concernées, une ingérence extérieure est assez difficile. À mon sens, Chypre mérite bien d'être réunie. Le mieux serait une sorte de fédération d'abord, mais il est certain que cela prendra un certain temps.
Selon Mirek Topolánek, la République tchèque peut communiquer à Chypre certaines de ses propres expériences, concernant notamment les questions d'ordre patrimonial et les restitutions des biens.
Nous comprenons très bien les Chypriotes. Au cours du XXe siècle, les biens chez nous ont été souvent spoliés et ont souvent changé de propriétaire. De ce fait, nous avons beaucoup d'expériences positives et négatives concernant les restitutions que nous sommes prêts à transmettre.
On rappelle que la présidence tournante tchèque succédera à celle de la France et précédera la présidence suédoise. Elle sera aussi le sujet d'une intervention par laquelle le Premier ministre tchèque inaugurera une conférence internationale ayant pour intitulé « Transformation de l'Europe 2008 » qui se déroulera ce jeudi 17 avril à Prague.
Le week-end du 11 et 12 avril a été marqué dans plusieurs villes d'Europe par des manifestations célébrant la journée internationale des squats et des centres autonomes. À Prague, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur les bords de la Vltava, au lieu d'Ina Plavka, entre la place Palatsky et Vitogne. Les manifestants sont venus soutenir un mode de vie qu'ils jugent injustement réprimé. Anne-Claire Veluire.
La ville de Prague n'est pas une ville connue comme d'autres villes européennes telles que Berlin ou Copenhague pour héberger des squats ou maisons occupées. Logiquement, la capitale tchèque n'a pas pu connaître ce phénomène apparu dans les années 70 chez ses homologues européennes, mais on pouvait quand même y compter une petite dizaine de squats au début des années 90, avec par exemple le squat Udivu Muže chez l'homme sauvage à Malostranska, qui n'a fonctionné que quelques mois après la révolution de velours, avant que le bâtiment ne soit récupéré par le siège du gouvernement tchèque. La question des squats pose évidemment un problème juridique, puisqu'il s'agit de lieux occupés par des personnes dans un but de logement sans titre de propriété ni bail de location. Pourtant, pour les squatteurs, les squats ont aussi une fonction culturelle importante, comme le commente un des organisateurs de la manifestation, Honza P., qui a préféré conserver l'anonymat.
Les squats ou centres autonomes ne sont pas seulement des lieux où l'on habite. Ce sont des endroits où l'on propose des événements culturels, des infoshops, des conférences, comme sur l'anarchie ou sur le mode de vie végétarien et sur beaucoup d'autres sujets. Et il n'y a aucun problème pour que chaque personne qui le souhaite puisse s'organiser par exemple avec des gens du squat Milada ou d'autres squats pour réaliser des infoshops ou des conférences. Bref, c'est ouvert à tous les gens sans différence et peu importe leur position dans la société.
Samedi après-midi, les manifestants ont effectué une marche à travers la ville. Ils ont ainsi déployé quelques banderoles devant les immeubles vides, tels que « Vos ruines sont nos maisons » ou encore « Nous ne voulons pas vos appartements délicats, nous sommes heureux avec Nora ». Depuis l'année dernière, la volonté d'éradication des squats se fait de plus en plus ressentir dans plusieurs États européens. Certains lieux symboliques, comme le quartier hippie de Christiana à Copenhague, est actuellement en train d'être démantelé et les bâtiments squattés sont progressivement rendus au marché immobilier. En République tchèque, les squatteurs estiment que la situation est particulièrement difficile pour eux et que la répression est plus forte que dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, la France ou l'Espagne. Honza P., un des organisateurs de la manifestation.
Le squat est lié au fait que ces bâtiments n'appartiennent à personne, mais très souvent beaucoup de gens, notamment les propriétaires, ont des projets différents avec ces bâtiments et ils assimilent les squatteurs à de la racaille, à des rebelles et à des drogués, ce qui, à notre avis, n'est pas vrai. La plupart ne consomment pas de drogue, sont au contraire végétariens et ont un style de vie sain, ce que les propriétaires de ces maisons ne savent pas. Par exemple, ces bâtiments sont achetés par de grandes compagnies qui décident que les gens doivent déménager. La plupart du temps, ce sont de grandes entreprises ou de grandes compagnies qui possèdent ou qui achètent ces endroits et ce sont eux qui donnent l'impulsion pour la répression.
À Prague, il n'existe plus qu'un seul squat, le Milada, situé au nord de la ville, dans le quartier d'Olechowice. Dans l'ensemble du pays, il se compte sur les doigts d'une main. Un nouveau centre autonome vient d'être créé en Silésie, près de la ville d'Ostrava. Le squat Victorie a également célébré cette journée européenne de soutien au squat et à la sous-culture autonome en organisant notamment des concerts. La police a débarqué, mais l'existence du squat ne semble pas remise en cause.
Ceux qui aiment l'art solennel et un peu austère de Philippe de Champaigne ont une occasion unique de découvrir la facette plus intime, plus lyrique de la création de ce portraitiste attitré du cardinal Richelieu. Ils peuvent voir au palais Sternberg, au château de Prague, un beau portrait récemment identifié comme celui de la femme de l'artiste, Václav Richter.
C'est la conservatrice de la collection d'art ancien de la Galerie nationale de Prague, Anja Ševčík, qui a réussi à identifier ce chef-d'œuvre.
Le tableau a été acheté en 2000 pour la Galerie Morave de Brno et était présenté dans le cadre de la collection d'art flamand en tant qu'œuvre d'un maître flamand anonyme de la première moitié du XVIIe siècle. Nous sommes heureux que les recherches aient démontré qu'il s'agit en fait d'une œuvre du portraitiste le plus brillant de la France du XVIIe siècle.
Bien qu'influencé d'abord par Rubens, Philippe de Champaigne ne s'est pas laissé séduire par l'opulence du style baroque. Il a pratiqué un art plus austère et plus spirituel qui lui a permis de devenir une des grandes figures du classicisme français.
Philippe de Champaigne est né à Bruxelles et ses racines flamandes se manifestent nettement aussi dans ce portrait. L'art du détail et la facture quasi naturaliste que nous voyons sur ce tableau sont justement les traits que nous admirons dans l'art flamand. À l'âge de 19 ans, le peintre est arrivé à Paris où il allait rester jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est imposé très vite en tant qu'artiste sollicité par la meilleure clientèle. Il a participé par exemple à la décoration du palais du Luxembourg pour la reine-mère Marie de Médicis. Médicis.
Du Luxembourg pro matki krala Maria de Medici.
Visage lisse et tendre, regard pensif, esquisse de sourire aux lèvres, bijou au symbole de la religion dans un décolleté chaste, c'est cette image de sa femme que Philippe de Champaigne a laissée à la postérité. Il est évident que cette jeune femme était aimée par son époux. Pour saisir son charme naturel et familier, le peintre a opté pour la simplicité, renoncé à l'étalage du luxe. Par contre, chaque petit détail de ce portrait est bien soigné, comme si tout ce qui touchait la femme de sa vie était sacré.
Le tableau est non seulement le portrait de l'épouse du peintre, mais aussi de l'auteur lui-même. Il nous montre comment il a vécu, quels étaient ses rapports vis-à-vis du monde. Je pense que ce n'est pas seulement un très beau tableau, un excellent portrait sur le plan artistique, mais c'est aussi un témoignage sur la vie privée de l'auteur.
Le bonheur de Philippe de Champaigne n'a pas été long. Épousée à l'âge de 15 ans, Charlotte est morte en 1638, 10 ans après son mariage. Le peintre, qui devait vivre encore 36 ans, ne s'est jamais remarié. Ceux qui désirent voir le visage de cette femme irremplaçable trouveront le portrait au palais Sternberg jusqu'au printemps 2009. Au début de l'année prochaine, le tableau sera repris par la Galerie Morave de Brno.
Radio Prague vous offre une carte QSL spéciale à l'occasion du 85e anniversaire de la radio tchèque. Pour la recevoir, il vous suffit de nous envoyer un rapport d'écoute des émissions de Radio Prague du 18 mai 2008. C'est en effet le 18 mai que les émissions de la radio ont commencé, il y a 85 ans. Fin de ce magazine d'actualité, mais sur Radio Prague, nous vous invitons à notre rubrique habituelle d'un mardi sur deux.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Alphonse Mucha, Alphonse Mucha en français, un artiste tchèque considéré comme un des maîtres de l'art nouveau. Il a connu ses plus grands succès en France. Au début du XXe siècle, il revient à Prague et se lance dans la réalisation d'une œuvre immense, l'épopée slave, un cycle de toiles monumentales sur l'histoire du peuple slave. 18 années de travail en tout pour le peintre, qui fit don de cette œuvre à la ville de Prague en 1928, avant de mourir en 1939. Pourtant, 80 ans après avoir reçu ce somptueux cadeau, la capitale tchèque n'a toujours pas trouvé le moyen d'exposer cette œuvre, et elle se trouve encore dans le château de la petite ville de Moravský Krumlov, à l'est du pays. John Mucha est le petit-fils de l'artiste. Il est aussi le président de la fondation Mucha, et gère ses œuvres. Il nous a reçus dans cette incroyable maison située en face du château de Prague, maison que la famille Mucha loue depuis de nombreuses années au chapitre de l'église catholique tchèque. Nous avons d'abord demandé à John Mucha quand, selon lui, l'épopée slave de son grand-père sera enfin exposée à Prague.
That's the $60,000 question, in a way. I'm at a loss.
C'est une question à $60,000. J'ai du mal à comprendre pourquoi cette œuvre n'est pas encore ici. Ce n'est certainement pas de la faute de notre famille. Elle a été offerte à la ville de Prague et devrait être exposée ici, mais de la manière dont Alphonse l'a envisagé, dans un espace approprié, un espace qui permettrait à l'œuvre de chanter, de développer sa propre musique.
L'épopée slave se trouve depuis des dizaines d'années dans le château en mauvais état d'un petit village de Moravie.
So far, it is in Moravský Krumlov.
Jusqu'ici, elle est à Moravský Krumlov. La capitale, la famille, mais aussi le monde entier a une dette envers Moravský Krumlov. Parce que sans Moravský Krumlov, l'épopée slave n'existerait plus.
The Slav epic would no longer exist.
Critiqué par les milieux artistiques lors de sa présentation, l'épopée slave reste l'œuvre la plus impressionnante d'Alphonse Mucha, connu davantage en France comme l'affichiste de Sarah Bernhardt.
He worked on it for many, many years, and in our archive, we have.
Il a travaillé dessus pendant de nombreuses années et dans nos archives, nous avons tout le déroulement. Il a même fait des répliques miniatures de chaque tableau. Chaque réplique mesure 1 cm/2. Les tableaux font en réalité 6 mètres de haut et 8 mètres de large, mais il avait ses maquettes pour s'assurer que les thèmes étaient tels qu'il les voulait. En gros, visuellement parlant, ce que nos auditeurs doivent imaginer, ce sont deux grandes pièces. Une pour 10 tableaux avec les moments clés de l'histoire des Tchèques et des Moraves. L'autre avec 10 tableaux concernant les moments clés de l'histoire des nations slaves comme la Russie, la Bulgarie, etc.
Jusqu'ici, il avait été question de la construction d'un pavillon Mucha dans le quartier pragois d'Olechovice, à côté du parc des expositions. Un projet qui semble désormais abandonné.
Eh bien, ce sera peut-être un scoop pour vos auditeurs, parce qu'il apparaît que le bâtiment que la ville de Prague voulait construire et que notre famille ne trouvait pas convenir à l'épopée slave ne sera pas construit. Pendant des années, nous avons essayé d'avoir un dialogue constructif avec la ville de Prague, un dialogue qui s'est avéré impossible pour des raisons que nous ignorons. Mais depuis moins d'un an, nous avons eu des discussions constructives avec Milan Richter, le responsable de la culture à la mairie de Prague.
Constructive discussions with him. I have a dream of, like, this is like Martin Luther King.
J'ai un rêve comme Martin Luther King. La ville de Prague a aujourd'hui l'opportunité unique de créer quelque chose de mondialement significatif, quelque chose de similaire au musée Van Gogh d'Amsterdam. Je le vois comme une coopération entre la ville de Prague, la fondation Mucha, un investisseur parce qu'il y a besoin d'argent.
Le musée Mucha, qui existe déjà à Prague, est le musée privé le plus visité de tout le pays. Pour John Mucha, il ne faut pas manquer l'opportunité que représente un futur immeuble consacré entièrement à l'œuvre de son grand-père.
Ce serait un bâtiment minimaliste qui permettrait à l'œuvre de s'exprimer elle-même. Il contiendrait le pavillon bosniaque que mon grand-père a dessiné pour l'exposition universelle de Paris en 1900 pour le compte de l'Empire austro-hongrois. C'est en réalisant ce pavillon qu'il a pris connaissance de l'histoire des Slaves et c'est ce qui lui a inspiré le concept de l'épopée slave. Dans ce même bâtiment, il y aurait l'épopée slave ainsi qu'un musée Mucha. Et grâce au succès des expositions que nous organisons à l'étranger, comme en ce moment à Madrid, nous serons en mesure de faire des échanges. Nous avons, par exemple, de très bonnes relations avec le Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Nous pourrions, par exemple, leur prêter des œuvres et en échange des objets de leur collection pourraient être exposés à Prague. Donc, c'est le genre de rêve que j'ai.
So, that is a sort of dream. It's not absolutely innocent, but it's...
Ce n'est pas exactement dans le centre, mais c'est plus près que le palais des expositions. C'est à côté de Florence, dans un quartier qui a été rénové. Cela pourrait élargir le champ touristique de Prague, en dehors du trajet entre le château et le pont Charles, qui peut devenir parfois trop encombré. Ce projet pourrait élargir l'éventail de ce que Prague a à offrir.
Les rapports entre Alphonse Mucha et son pays natal ont souvent été compliqués. Pour son petit-fils, il s'agit désormais de continuer la lutte.
Une chose que j'ai apprise dès l'enfance, si vous êtes un Mucha, c'est presque votre devoir de surmonter un à un les obstacles. Il y a quelques années, ma mère et moi, nous avons été violemment attaqués par la presse tchèque. J'étais prêt à tout lâcher et à retourner dans ma banque, à Londres. Mais je suis allé à l'exposition que nous avions montée à Prague, inaugurée par Václav Havel, ami de mon père, et j'y ai vu des jeunes de 15 ans ébahis devant les tableaux. C'est ce qui m'a poussé à continuer. Je me suis souvenu de la chanson guerrière des Hussites. Elle dit « N'aie pas peur de tes ennemis, ne regarde pas leur nombre ». Je me suis dit « Oui, ça doit être la devise de notre fondation ». Je n'avais pas réalisé à quel point ces devises étaient prophétiques.
Les ennemis ne regardent pas leur nombre. Little did I realize how prophetic that motto began.
C'était John Mucha, merci à lui d'avoir répondu à nos questions, le petit-fils de Alphonse Mucha, le peintre tchèque bien connu en France. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. C'est la fin de La République tchèque au quotidien, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ahoy.
Mais pour nous retrouver certainement soit sur les ondes, soit sur le satellite, soit sur Internet, mais toujours sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.